Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Et ben oui, je le dis comme ça parce que c'est en Italie que nous allons commencer en causant Serie A avec notamment le gars Cioffi, Matteo, qui hier n'avait plus de voix avant même la défaite de ses protégés du Milan AC, c'est vous dire. Mais la vraie info du week-end, au-delà des Alpes, c'est la défaite de la Juve. Et un événement, car c'était à domicile et la Juve n'avait pas perdu, la vieille dame n'avait plus perdu chez elle depuis 57 matchs toutes compétitions confondu. La Lazio de Rome a donc réalisé un exploit samedi. Du coup, après les succès de Naples et de l'Inter hier dans le derby de Milan, les Turinois pointent à 5 longueurs des Napolitains et à 3 des Interistes. C'est chaud, ou pas. Direction l'Angleterre également, où Manchester City, là pour le coup, est en fusion et caracole en tête, ce qui tombe bien car demain, les Citizens reçoivent Naples en Ligue des Champions, sans conteste, la plus belle affiche de la soirée. Et pendant que les hommes de Pep Guardiola cartonnaient samedi face à Stoke, de José Mourinho nous ennuyait ferme. 0-0 entre Manchester United et Liverpool. À Liverpool, en fait, la surprise pour l'heure de cette première ligue, c'est Watford qui bat Arsenal et prend la 4e place, juste derrière Tottenham, solide 3e avant d'aller défier le Real Madrid ce mardi. Et le gars qui en connaît un rayon côté football d'outre-Manche, c'est bien sûr Salim Bongali, et c'est pour ça que David Finzel a pensé à l'inviter. Bonjour Salim.
Bonjour.
Quelques mots de la Ligue 1, bah oui quand même, hein, y en a que ça intéresse. Ligue 1 qui a vu Monaco perdre à Lyon vendredi, un match qu'il aurait sans doute gagné la saison dernière. 3 buts encaissés, pas de quoi se mettre en confiance avant de recevoir le Beşiktaş Istanbul demain. Match déjà capital pour la survie des Monégasques en Ligue des Champions. Et puis nous reviendrons aussi sur le nul 3 partout hier entre Strasbourg et l'OM. Parce que comme Marc Libra est venu aussi, il faut bien le faire bosser. Bonjour Marc.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pour terminer, un mot aussi du Chan 2018 attribué sans surprise hein, au Maroc. Et l'on peut se demander si les patrons de la CAF actuellement, ce ne sont pas justement les Marocains. Enfin les Marocains, pilotés en sous-main bien sûr, sûrement par Hervé Penaud, toujours dans les bons coups. Salut Hervé.
Bonjour à tous mes amis, quel plaisir d'être là avec vous.
Mais on notera qu'Hervé peut parler de tout quand même.
Hein. Ah ben de tout,
voilà. Avec les Marocains. C'est vrai que c'est ma chance.
Allez, Guillaume Ploquin a mis le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, on peut y aller. Hop hop hop, vous avez vu le programme, messieurs, on ne chôme pas, hein. Pas de blabla, du débat, la Serie A donc d'abord avec ce cataclysme à Turin, une défaite de la Juventus chez elle, incroyable, 57 matchs on l'a dit, toutes compétitions confondues que cela n'était pas arrivé, 41 en championnat, la dernière défaite c'était en août 2015, que de bonnes raisons pour appeler le souffreteux du week-end, le petit Biquet n'avait plus de voix hier, Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
C'est la voix.
Vous n'avez pas de pitié. C'est la voix.
Non, nous n'avons pas de pitié. Enfin, Guillaume Ploquin surtout. Et je constate effectivement que votre voix est bien meilleure qu'elle ne l'était hier lorsque vous m'avez appelé pour dire « je crois que ça va pas passer à la radio ». Non, ça ne passait pas hier, on va voir si c'est mieux aujourd'hui. Si ça ne va pas, bon, on vous renverra chez vous, on fera bip bip bip. Alors, Matteo, pour en venir aux choses sérieuses, défaite du 2-1 face à la Lazio donc de la Juve hier, qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans le 11 d'Allegri? On rappelle que la Juve est sextuple championne d'Italie en titre.
Oui, donc bon, on peut dire Olivier que le Bianconeri souffre de temps en temps de panne d'électricité pendant un match. Et on l'a remarqué dans les dernières rencontres. L'équipe doit encore trouver un équilibre, surtout au niveau défensif, où on constate quelques limites. 13 buts en 11 matchs officiels, c'est un peu trop, surtout si on parle de la Juve. Défense qui peut-être commence aussi à souffrir le naturel procès d'envieillissement de quelques joueurs qui ont dépassé la trentaine depuis un bail. Et ensuite, il y a des doutes sur les nouvelles recrues qui ont du mal à s'intégrer, à exception de Blaise Matuidi qui a déjà compris les règles de jeu de son entraîneur. Et pour terminer, l'attaque, Dybala est souvent, mais pas toujours, l'homme en plus, tandis que Gonzalo Higuaín, avec seulement 3 buts en championnat, est encore à la recherche de son top niveau.
Ouais, Dybala qui a raté un pénalty, le pénalty de l'égalisation. On doit s'inquiéter pour cette Juve, Hervé?
Non, je vais pas m'inquiéter. Mais le problème, vous savez, quand vous êtes 7 fois champion d'Italie, ou champion de 6 fois.
6 fois
de suite, vous cherchez un 7e titre. ben, à un moment, ça craque. Parce que c'est pour ça que ça se refait pas. C'est pour ça que c'est exceptionnel déjà d'être champion 6 fois. C'est qu'à un moment, les joueurs prennent de l'âge, des joueurs qui étaient déjà pour certains âgés. Ils ont perdu un élément clé défensivement, faut pas l'oublier, hein. Chiellini. Bonucci, c'est quand même l'élément. Peut-être aujourd'hui, on se dit finalement, est-ce que c'était peut-être lui le maillon fort de cette défense. Mais toujours est-il que ces joueurs ont un an de plus chaque fois. Ça, faut pas l'oublier. En plus, quelques méformes de certains joueurs. Dybala fait un début de saison magnifique et là, il est un petit peu moins bien. Il rate deux pénaltys importants. Le pénalty, cette fois-ci, qui fait perdre un point, mais le pénalty contre Palerme qui fait perdre deux points. Donc ça fait trois points sur des pénaltys de dernière minute. Donc ça se joue quand même à peu de choses. C'est pas une Juve qui est complètement larguée, c'est une Juve qui doit se... Alors je dis pas se reconstruire, parce que les joueurs, la plupart des joueurs étaient déjà là, mais c'est une Juve qui doit retrouver une certaine sérénité, qui pour l'instant a été un peu abandonnée avec le départ effectivement de Bonucci, et puis le fait que quand vous gagnez tout le temps, à un moment vous gagnez un peu moins. Il y a une forme de logique.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Usure logique, finalement, pas au-delà de l'inquiétude, c'est toutes les séries doivent s'arrêter et l'équipe est vieillissante.
Vous avez évoqué le programme et dans cette émission, on va parler de Ligue 1 un peu plus tard dans cette émission. Il y a quelques semaines, quelques mois, lorsque le Paris Saint-Germain a perdu son titre de champion, s'est dit, ah ben, à un moment donné, ils ont gagné 4 fois de suite, c'est compliqué de gagner un 5e, 6e titre, etc. Et on les a connus, hein, en France comme à l'étranger, ces séries comme ça de victoires. Donc oui, c'est logique, effectivement, qu'il y ait une usure. Après, ce débat-là, on l'a autour de la Juve. À quelques secondes près, on l'a plus. Et à quelques centimètres près, si Dybala marque ce pénalty, effectivement, on en parle un petit peu moins. En tout cas, on ne parle pas de cette défaite de la Juve. J'ai envie de dire, c'est ponctuel. J'ose penser que ça ne va pas tenir, que la Juve va quand même revenir dans la course comme il faut.
C'est un débat statistique, finalement. C'est parce qu'ils étaient sur cette série phénoménale qui doit bien s'arrêter un jour.
Ah ben, elles sont faites pour s'arrêter. Maintenant, il y a aussi, sur la première période, Higuain peut faire aussi la différence. Il n'arrive pas à le faire. Et puis, c'est un enchaînement de choses qui fait qu'à un moment donné, on y arrive un petit peu moins. Le cas Dybala est pour moi un petit peu plus préoccupant, puisqu'il joue pas forcément titulaire en sélection. Il y a peut-être, on sait pas pourquoi aussi, donc il revient, il est pas dans le coup. On sait que Messi, c'est vrai, les a qualifiés, mais il est pas titulaire avec la sélection, et alors que Dybala est considéré comme la référence aujourd'hui, donc il y a peut-être un souci aussi.
Juste en rappelant que Dybala, dans ce match face à la Lazio, donc il rate ce pénalty, il frappe sur le poteau aussi dans la partie aussi,
bien sûr.
Encore une fois, ça jouerait pas une euro au final.
Il y a aussi un joueur qui s'appelle Alves, qui était signé au PSG, qui leur a fait énormément de bien la saison passée, qui a pas été compensé aujourd'hui. Donc attention, certes, il a 34-35 ans, les gens. Mais l'année dernière, rappelez-vous, en fin de saison, c'est lui qui a tiré la Juve, il était très bon et ils ont pas retrouvé. Et Matuidi, paradoxalement, qui lui est rentré dans le moule. Donc
et puis on va pas se plaindre qu'il y ait un peu de suspense,
bien sûr,
pourquoi pas un changement en tête. La presse transalpine, en tout cas, Matteo applaudit la Lazio. Il y a de quoi, cette victoire, on l'a dit, elle vient de loin. Et on parle surtout du technicien, de l'entraîneur de cette Lazio, un certain Simone Inzaghi. On le présente comme le nouveau Conte déjà.
Oui, on parle beaucoup de lui et pour cause, car c'est vraiment beau de voir cette équipe jouer, à l'image donc de son entraîneur, Simone Inzaghi, qui a su imprimer un jeu de grande qualité, vitesse et technique, mais aussi un peu de tiki-taka à la Guardiola. Donc la presse, vous l'avez dit, a perdu la tête pour ce technicien de 41 ans et qui a toujours vécu à l'ombre de son frère aîné, le fameux Pippo Inzaghi. Simone est donc la grande révélation de ce début de saison, et de lui on envisage déjà un futur dans un autre club, et pourquoi pas du côté de Turin, et pourquoi pas sur le banc de la Juve à la place de Max Allegri, pourquoi pas.
L'autre homme fort de la Lazio en ce début de saison, c'est Ciro Immobile. Il a marqué 11 buts en 8 matchs depuis le début de saison. Et on rappelle au passage que la Lazio avait déjà battu la Juve au mois d'août pour la finale de la Supercoupe d'Italie. La Lazio a déjà un titre dans la main et avait déjà fait un peu de mal à la Juve. C'est la bonne surprise, la Lazio. On s'attendait à voir la Roma. La Roma n'est pas très très loin, on le reverra. Mais enfin, ça fait quelques années qu'on y croit, à la Roma, puis que finalement c'est décevant. Là, la Lazio est là.
Oui, insistons quand même sur cette équipe de la Lazio qui, ces dernières saisons, ne démarrait pas forcément bien et d'ailleurs réalisait des saisons assez, on va dire, anonymes, hein, par rapport au passé que l'on a pu connaître de cette équipe, avec un titre de champion il y a quelques années, évidemment, au début des années 2000. La Lazio semble revenir. Alors, on va patienter, on n'est qu'au bout de 8-9 journées, évidemment.
On est à peine au quart du championnat.
Mais déjà de l'avoir ainsi, c'est déjà bien mieux que ce qu'elle a pu faire sur les 2-3 dernières années, effectivement.
Mais 11 buts en 8 matchs, Immobile, ça. c'est du bon début de saison dans un championnat où c'est pas toujours facile de marquer.
Quand on marque autant de buts, mais aussi il y a peut-être un jeu, quelque chose qui est mis en place pour lui. Et en tout cas, on voit qu'il se régale et il s'éclate. Donc ça, c'est le plus important. Vous pouvez avoir le meilleur attaquant du monde actuellement si vous ne donnez pas les ballons. C'est difficile. Après, il faut pouvoir se créer l'occasion. Il se les crée. Il est toujours. Puis un buteur reste un buteur. Il y a des passages à vide. On l'a connu avec Diego Costa en Angleterre. Rappelez-vous, et puis d'un coup il revient à Chelsea. Hop, d'un coup il remarque des buts. Puis après il redisparaît. Voilà, c'est un peu la vie d'un attaquant.
Mais il faut rappeler, pardon Hervé, juste Immobilier déjà l'an dernier, alors malgré une Lazio qui était un tout petit peu en dedans, lui il continuait de marquer déjà des buts. Il avait eu son passage difficile, que ce soit à Séville ou à Dortmund aussi, on l'a oublié, mais il a joué à Dortmund, enfin joué entre guillemets.
Il n'a pas réussi là-bas, exactement.
Et c'est ça, et là enfin depuis la saison dernière, il revit vraiment à la Lazio.
Hervé. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que souvent dans les champions, à la fin de saison, c'est les équipes qui ont la meilleure défense. Et défensivement, parce que c'est un jeu attractif, parce qu'il y a beaucoup de prises de risques, effectivement, il y a parfois des déséquilibres dans cette équipe de Lazio. Et c'est une équipe qui a déjà encaissé 10 buts depuis le début de saison, ce qui est beaucoup à ce stade de la compétition. Et sur une fin de saison, souvent, c'est les équipes, vous savez, la Juve, ils doivent être à 7 buts, vous avez Naples qui a dû encaisser 5 buts. Donc, c'est des équipes, vous savez, qui à un moment réussissent à fermer parce que vous pouvez pas toujours marquer 3 buts dans les matchs. Donc le petit défaut aujourd'hui de Lazio, mais lié à ce système de jeu dont on parlait, un système très offensif, très joueur d'Inzaghi, fait qu'à un moment, il va falloir trouver mettons, les petits aménagements qui permettront de garder cet équilibre.
Allez, entre deux gorgées de miel citron, retrouvons Matteo Ciuffi pour parler de Naples. Naples qui s'impose 1-0 à la Roma et qui s'envole au classement avec un 8/8 quand même. 8 matchs et 8 victoires, Matteo, pour les Napolitains qui sont 2 points devant l'Inter, 5 points maintenant devant la Lazio et la Juve.
En effet, donc Naples connaît le chemin qui amène au titre. Pour l'instant, l'équipe est en train de suivre ce trajet avec précision, je dirais même chirurgicale, 8/8, sans faute. Donc, monsieur Naples, pour l'instant, est en train de gagner un pari presque incroyable, car cette année, le club s'est présenté au départ avec les mêmes effectifs de la saison dernière, du jamais vu, honnêtement. Mais qui montre bien que derrière ce choix, il y a un projet qui a été conçu il y a 3 ans par le président Aurelio De Laurentiis. Ce projet, De Laurentiis a voulu donner les clés de ce projet à Maurizio Sarri, qui a été capable de bâtir une équipe qui joue par cœur et qui pratique un football moderne. Le football actuellement le plus beau en Europe, comme a déclaré l'autre jour Pep Guardiola.
Oui, c'est vrai.
Ah bah ça tombe bien puisque on va en parler tout à l'heure, mais Pep Guardiola il sait de quoi il parle puisque demain ce sera la grosse affiche, on l'a dit dans les titres, on va en reparler dans quelques instants, Manchester City Naples. C'est vrai que c'est pas qu'on s'intéressera moins à Monaco Besiktas, mais Manchester City Naples ça claque comme affiche.
Ouais, mais faut pas oublier que ce coach là aussi avait expliqué pendant 2 ans, je vais mettre en place quelque chose et on va en tirer les conséquences cette année, et c'est le cas. Il y a aussi il devait faire une très grosse tournée en Asie qui a été refusée par le coach parce que non, pas question, on lâche rien, on a un objectif, enfin il y avait un budget important, il a dit non, on va pas là-bas. C'est trop fatigant, on a des objectifs cette saison. Tout est mis en place, on lui a fait confiance et aujourd'hui ça marche et le football est quand même magnifique. C'est là qu'on peut voir que le choix de certains entraîneurs, certains disent ouais, il suffit de mettre des joueurs comme ça, ça suffit. Là on voit bien que l'effectif n'a pas bougé. Certains il y a 3 ans ont pris 3 ans de plus aussi aujourd'hui et ils sont toujours aussi bons.
Mertens et compagnie, c'est vrai qu'elle enchaîne, c'est
avec un Kalidou Koulibaly qui est quasiment un des meilleurs défenseurs centraux du monde aujourd'hui. C'est phénoménal.
Et on espère qu'on le verra à la Coupe du Monde justement.
Peut-être qu'en équipe de France on va le prendre.
Alors Didier Deschamps.
mais c'est vrai que ce qu'il fait c'est phénoménal.
Non, on verra la Coupe du Monde, mais avec le Sénégal bien sûr. On leur souhaite en tout cas aux Sénégalais.
Eux ou les autres, pour l'instant ils sont 3 en course.
Je dis on leur souhaite.
Burkina et Cap-Vert, c'est
on leur souhaite.
Bien sûr.
On sera ravis de voir les Sud-Africains ou les Cap-Verdiens. Évidemment. On n'est pas comme ça.
On parlait des quelques centimètres qui changent tout pour la Juve, pour la Naples, on rappelle que c'est un peu le cas, la Roma a touché et le poteau et la barre dans son match aussi face à Naples. Voilà, Naples ça enchante, mais attention, là encore, comme pour la Juve, ne coulons pas la Juve, ne nous emballons pas totalement pour le Napoli.
Et pour Naples, en quelques secondes, Matteo, avant de parler de l'Inter, la question se pose vraiment du choix entre le championnat et la Ligue des Champions, non, vous plaisantez?
Bah, il faut faire un choix. On sait bien que c'est plus difficile de gagner la Ligue des Champions que le championnat en ce moment pour cette équipe-là qui n'a pas une grande rose. Donc, il doit aussi savoir gérer les joueurs. Et on le sait, Aurelio De Laurentiis, il l'a déclaré aussi ce matin à la Gazzetta dello Sport, l'important c'est vraiment de gagner le titre. Ensuite, on devra être beau aussi en Europe, mais tout d'abord le titre en Italie.
Alors je sais que c'est un moment délicat pour vous, mais revenons tout de même sur cette défaite milanaise hier, enfin milanaise de l'AC Milan, puisque l'Inter, l'autre club de la ville, a remporté ce derby 3-2. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu.
Milaniste.
C'était un match fou. On a vu un triplé d'Icardi qui était vraiment l'homme de cette rencontre. Voilà les interistes. Dauphin de Naples, hein, c'est un peu le retour du retour de la revanche.
Oui, allez, il faut le dire, Olivier. Honnêtement, le jeu de l'Inter ne plaît à personne, mais permet à l'équipe de gagner presque tous les matchs. C'est donc à la deuxième place au classement. 22 points en 11, en 8 rencontres, jamais aussi bien dans les dernières 15 années. Donc, une sacrée revanche pour un club qui l'année passée avait vécu une saison épouvantable. Une revanche aussi pour Luciano Spalletti, chassé de la Rome sans vraiment aucun respect. Revanche pour Mauro Icardi, souvent critiqué même par ses propres supporters, mais hier auteur d'un triplé phénoménal et qui est un exploit qui auparavant avait réussi à seulement 3 autres joueurs nerazzurri. Donc Icardi, à partir de hier soir, est officiellement rentré dans l'histoire du club milanais.
Un mot sur Icardi, Marc Libra, parce que c'est un attaquant et que voilà, il est vraiment prépondérant là.
Il est prépondérant, il sait marquer des buts. Quand on a la chance, il y a beaucoup de clubs en Ligue 1, même en Angleterre, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou en Espagne, s'ils n'ont pas de grands attaquants, de grands buteurs. Puis il y a la confiance aussi par rapport à tout ce qui s'est passé à l'avant-saison. Mais il y a une dynamique, en tout cas lui il en profite et c'est toujours pareil, bien servi, on est capable de marquer des buts et de faire pencher. Puis la confiance se met en place et puis après on tire l'équipe vers l'eau. Après la route va être longue aussi, hein, faut pas, ça va être quand même très difficile. Moi un petit peu, j'attends de voir la suite, mais bon.
C'est déjà bien. Hervé, un mot ?
Oui, de la même manière. Wait and see, comme on dit en
Italie. Ils sont tous d'accord pour dire qu'on s'ennuie à regarder l'Inter, hein, mais que c'est efficace.
Oui, non, mais c'est efficace. Là, aujourd'hui, vous avez un entraîneur qui a mis en place un système qui est très cohérent. Ultra cohérent, notamment avec les armes qu'il a. Donc, bon, attention, la victoire d'hier, c'est vrai que ça se joue aussi sur des buts phénoménaux, parce que Icardi, notamment, la reprise de volée qui met extérieur l'autre côté, un geste de grande, grande classe. C'est-à-dire qu'il y a aussi du talent, il y a beaucoup de talent dans cette équipe de l'Inter aussi.
Ah, ben Icardi, de toute façon, il le montre depuis qu'il est à l'Inter, qu'il a du talent. Et si en plus, maintenant, il commence à marquer dans les grands matchs, au grand moment, là, ça peut devenir phénoménal pour l'Inter et pour lui aussi.
Puisque Salim Bongali a repris la main, on va vous lâcher, mon ami Matteo. On va vous laisser à votre miel et votre citron. On vous souhaite vraiment de bien récupérer. Faut rester chez vous, hein, monsieur, là-bas. Hein.
Merci du conseil, Olivier.
Faut arrêter de crier, puis pour le Milan AC, ça ira mieux d'ici 2-3 ans. À bientôt, Matteo. Merci encore.
Au revoir tout le monde.
Allez, on va passer de l'autre côté de la Manche. L'Angleterre, donc, ou qui régale, hein, qui régale, Pep Guardiola et ses troupes, 7-2 samedi face à Stoke, 29 buts marqués, 4 encaissés. J'ai entendu chez vous, chez SFR Sport, un ex-ami de la maison, Pierre Ducrot, vous le saluerez de notre part, on regrette bien de plus le recevoir ici, l'ami Pierre, qui à 2-0 a dit le match risque d'être long pour Stoke. À l'arrivée, il y a eu 7-2.
C'est ça.
Ils ont pris une raclée.
Ça a été long, effectivement, pour cette équipe de Stoke City, avec une équipe de Manchester City qui, certes, s'est baladée, alors on le voit au score, évidemment, mais dans la manière, Pep Guardiola, à l'issue du match, disait c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur match
le plus abouti
auquel j'ai pu assister depuis que je suis sur le banc.
7 victoires, 1 nul hein, cette saison, on rappelle, juste en championnat.
C'est ça. Une équipe de City qui, effectivement, s'est baladée avec des joueurs, surtout, qui ont encore haussé de niveau, et un joueur qui l'est hein, depuis le début de la saison, qui est à mon sens peut-être l'un, si ce n'est le meilleur milieu de terrain offensif du monde, Kevin De Bruyne.
J'ai une stat, vous l'avez peut-être aussi.
Allez-y.
Je l'ai trouvé samedi, 100 matchs pour Kevin De Bruyne sur la pelouse pour Manchester City, 25 buts, 38 passes décisives, c'est quand même énorme ça.
Avec des passes décisives assez affolantes, à un moment il met les deux mêmes passes décisives, deux courbes phénoménales, une pour Leroy Sané et une pour Gabriel Jesus, mais qui n'ont pas la même résultante, une qui va à toute vitesse et l'autre pour Leroy Sané qui commence fort et qui au final se ralentit toute seule pour permettre à l'Allemand de marquer. Enfin De Bruyne fait des choses phénoménales, ça va vite, ça va très vite et c'est ce qui permet aujourd'hui à City de se balader et face à Stoke et depuis le début de la saison.
Et c'est de bon augure avant de recevoir Naples, on aura l'occasion d'en reparler, et on aura encore 10 bonnes.
Évidemment, les Anglais vont gagner évidemment.
10 bonnes minutes encore avec le foot anglais, on espère qu'on vous a alléché. Restez avec nous, revenez dans 3 minutes 30.
Radio Foot International.
Olivier Prond.
La deuxième partie de Radio Foot International, si vous vous demandez où est la dame, bah elle est chez elle, on lui a passé un petit coup de fil, tout va bien, au milieu de ses chats, elle écoute tranquillement, elle reviendra demain. On a parlé de la série A, on a commencé à parler de l'Angleterre, on va continuer à parler de l'Angleterre, car
la série B, quoi.
D'après nos sondages, vous aimez bien.
Hein. C'est les épisodes
Hervé
de série B.
Hervé Penaud,
on parlait... Oui, on pourrait en parler d'ailleurs de le meilleur championnat. Enfin bref, on aura l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. On a parlé de Manchester City, donc vainqueur 7-2 samedi de Stoke City. Manchester qui compte 2 points d'avance en tête sur Manchester United. Et Manchester City qui accueille demain Naples. On écoute Pep Guardiola à ce sujet de ce... cette grosse affiche demain soir en Ligue des Champions.
Je vais expliquer à mes joueurs à quel match ils doivent s'attendre, à quel point ils seront difficiles à manœuvrer. Je vais leur montrer comment joue Naples, comme je l'ai fait pour le Shakhtar. D'ailleurs, les deux équipes sont assez similaires dans leur façon de jouer. La différence, c'est que le Shakhtar a un peu trop tendance à attendre, alors que Naples vous prend directement à la gorge. S'il le pouvait, il presserait même jusqu'au gardien. Non, vraiment, je suis content de jouer ce type de match.
Est-ce que vous, messieurs, vous serez content de le regarder ?
Ah oui, quand on a évoqué il y a quelques instants l'équipe de Naples qui déroule et pas qu'un peu dans Serie A, et quand vous avez en face une équipe qui offensivement est juste épatante, on a évoqué le jeu barcelonesque de cette équipe de Guardiola, c'est effectivement le cas. Enfin actuellement, peut-être qu'en Europe vous avez les deux meilleurs jeux, les deux jeux les plus spectaculaires d'Europe.
Peut-être pas les deux meilleures équipes, mais les jeux les plus spectaculaires, parce qu'il faut pas oublier ce que fait Barcelone quand même en Espagne.
Et le stade de Reims peut-être en Ligue 2.
Non, le stade de Reims c'est pas mal.
Et
le Paris Saint-Germain.
Non, grosse affiche, c'est vrai. On en salive. L'avance Manchester City a priori a quoi, un peu plus d'expérience.
Et aujourd'hui vous avez...
rappelle juste que Naples s'est un peu loupé la première journée. On attendait mieux d'eux finalement, donc ils sont un petit peu en retard et ils viennent chez un Manchester qui est en pleine bourre.
Oui, et puis surtout chez un Manchester et un Pep Guardiola qui a envie surtout de montrer autre chose par rapport à la saison dernière. Pep Guardiola, on le rappelle, la saison dernière, c'était la première fois qu'il ne remportait pas le moindre titre. Et cette fois, il a envie de changer les choses, que ce soit en Angleterre, voire même sur la scène européenne. Et Pep Guardiola a montré les choses lors de la première journée, une belle victoire à l'extérieur. Là, il veut surtout montrer que c'est bien ce qu'il fait en Angleterre. Il veut le prouver aussi justement sur la scène européenne. Et les joueurs sont prêts. Il a quasiment tout son effectif à disposition. Il a toutes les armes qu'il faut, quasiment toutes les armes, Benjamin Mendy à part, pour justement réaliser de la performance qu'il faut face à Naples.
En plus, c'est quand même une équipe qui est un peu plus expérimentée que celle de Naples. Hein. Naples, c'est mais un peu le retour au très haut niveau. Enfin, ils étaient l'année dernière, évidemment, mais c'est pas une équipe comme Manchester City qui avait éliminé le Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier, qui avait fait demi-finaliste. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont encore là. On parlait de De Bruyne, Agüero, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Alors c'est vrai que lui a réussi à insuffler cet esprit jeune, parce que toutes les équipes de Guardiola ont une caractéristique, c'est de faire monter des jeunes, parce que pour qu'ils puissent s'habituer à son style de jeu. Il peut pas prendre des joueurs qui ont 30 ans, qui ont déjà joué dans un certain système, et après complètement modifier leur ADN, c'est quasiment impossible. Et alors lui, il crée un ADN à son équipe, un peu comme Sarri de la même manière. C'est pour ça que Sarri n'a pas eu besoin de changer de joueur, ce qui est rarissime, on le disait tout à l'heure, parce que ne jamais changer de joueur, je pense que c'est... Moi, je l'ai rarement entendu, même Manchester United à une époque, changeait toujours un ou deux joueurs à l'intersaison, pas plus. Ferguson, il n'en voulait pas plus parce qu'il y avait un jeu Manchester United. Et ce qu'ils font aujourd'hui, Manchester City, franchement, dans le championnat d'Angleterre, c'est phénoménal. D'autant plus que Guardiola avait dit qu'il avait peut-être pas sous-estimé ni mésestimé le championnat anglais, certainement pas, mais il s'était peut-être pas adapté comme il aurait dû au championnat anglais. Il a réussi à la fois à donner un jeu offensif et s'adapter.
Ouais, puis c'est surtout la soirée de demain soir est importante, puisque en cas de défaite, Naples est dans une situation compliquée, puisqu'entre le Shakhtar et le Feyenoord, ils sont pour l'instant, ils sont troisième, Naples. Donc ça devient presque...
Ils se sont rendus face au Shakhtar
en se ratant à la première journée. On peut dire, bah maintenant, troisième journée, il faut à tout prix aller gagner. Alors que peut-être, dans le cas de Paris, le PSG et le Bayern, on peut dire, bon, on va gérer première, deuxième, on déroule. Là, eux, ils se sont mis dans une situation très compliquée. Donc après, à voir.
Alors, ils ont 2 points d'avance sur Manchester United. Pourquoi ? Bah, parce que...
Ils sont meilleurs.
On a vu une purge Liverpool-Manchester
United. Non, pas d'accord. Pas d'accord.
Mais si.
Ah non.
Alors, Salim, s'il te plaît.
Non, t'as pas un tir cadré en deuxième mi-temps.
Attendez.
Mais il vend sa soupe, celui-là.
Attendez. Non.
Moi, je vais le défendre. Bravo.
Déjà, en termes d'intensité.
0-0, on le rappelle.
On a observé une véritable intensité, justement, que ce soit en première et en seconde période. Ensuite, une vraie bataille tactique aussi. José Mourinho a voulu imposer un style de jeu. Alors, certains vont dire, oui, un style de jeu très défensif, 0-0, justement, c'est du Mourinho tout craché face aux grosses équipes. Il le fait et il le réussit. La presse anglaise lui est tombée dessus. José Mourinho, l'ennemi du football. Oui, mais on sait que José Mourinho, lors des grandes rencontres, il est comme ça. D'ailleurs, notre Jamie Carragher, qui est désormais sur Sky Sports, lui est allé dans l'autre sens. On critique José Mourinho, mais faudrait-il pas critiquer Jürgen Klopp? Parce qu'on sait comment José Mourinho va jouer. C'est Jürgen Klopp qui doit s'adapter et jouer autrement. Au final, Liverpool n'a eu qu'une grosse occasion et une parade phénoménale de De Gea. C'est Liverpool qui a perdu un point. José Mourinho, il était venu pour ne pas perdre. Il l'a fait.
Oui, comme souvent.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il a un il a un style cohérent. C'est-à-dire que bien sûr, on peut ne pas aimer, mais il y a pas de note artistique à la fin des matchs. Il y a un résultat. Et de ce côté-là, il fait exactement ce qu'il a à faire. Ce qu'il est capable de faire contre l'Ajax Amsterdam, une équipe de 21-22 ans de moyenne d'âge en finale de Ligue Europa. C'est-à-dire contre personne, pour lui, pour à l'échelle de Manchester United. C'est-à-dire accepter d'être dominé et de jouer en compte. Vous imaginez bien contre Liverpool, l'équipe qui l'année dernière avait un sans faute contre toutes les grosses équipes du championnat d'Angleterre, faut pas l'oublier. C'était la meilleure équipe de tous les tops. Par contre, il perdait contre les petits.
C'est ça.
Et ben, ce qu'il a fait, il a mis en place sa stratégie. C'est pas beau, c'est pas tout ce que vous voulez, mais c'est cohérent. Donc on peut pas non plus complètement lui en vouloir. Mais je pense qu'avec Sadio Mané, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Ce qu'il a peut-être manqué, la folie de Sadio Mané, cette capacité à éliminer des adversaires dans les derniers mètres et qui déstabilise de toute façon toutes les défenses.
Un mot, Marc.
Ouais, je me suis pas forcément régalé. Alors l'intensité, à dose homéopathique peut-être dans le premier quart d'heure, et puis après action 36-37, on a eu l'aller-retour, et puis après c'est fini, il se passe rien. Aujourd'hui, on parle de Mourinho la saison passée. Salim, je te rejoins. Ok, tacticien parce qu'il a pas le choix. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même cas. On n'est plus dans le même cas.
Après, effectivement, le truc c'est qu'aujourd'hui, il a les armes qu'il faut. Il a recruté comme il voulait déjà la saison dernière, il l'avait fait, et là encore plus. Après, Mourinho a une base. Très simple. Il ne veut pas perdre des gros matchs et il veut gagner les
petits. Mais c'est un petit Liverpool. On n'a pas cité un grand match de Liverpool. C'est pas possible quand j'ai encore Lovren derrière.
Hervé,
c'est pas possible.
Hervé a très bien dit. Liverpool et Jürgen Klopp face au gros réussit toujours. Donc José Mourinho n'a pas envie de prendre de risques. Et résultat, il n'est qu'à 2 points de City.
Je trouve qu'on a déjà bien parlé de ce match suffisamment. On va donc passer à Tottenham. Tottenham, solide 3e à 2 points de United, à 5 de City. C'est vrai que Tottenham confirme. Tottenham en voyage au Real demain en Ligue des Champions, ça aussi c'est une belle affiche.
Ah oui, Real Tottenham.
Ont-ils les moyens d'espérer quelque chose, les Spurs?
Il y a quelques instants, on parlait de l'inexpérience de Naples. Pour Tottenham, on a presque l'impression que c'est encore en dessous même par rapport à cette équipe du Napoli. Alors oui, vous avez des joueurs cadres. Harry Kane en fait forcément partie. Zinedine Zidane l'a encensé aujourd'hui.
Zinedine Zidane, il vous a surtout envoyé un bon petit scud à vous et à vos amis. L'objectif, c'est de montrer que la Liga est le meilleur championnat d'Europe.
Oui, il y a 2,5 équipes en Liga, c'est très bien. Effectivement, c'est le meilleur championnat du monde. Mais plus sérieusement, Harry Kane est dans une grande forme, même si à domicile, c'est là où il a plus de problèmes. Harry Kane, à Wembley, ne marque pas en championnat. Après, vous avez d'autres joueurs qui sont un ton en dessous. Dele Alli, notamment, qui n'est que l'ombre de celui qu'il était l'année dernière. Soyons honnêtes, oui, le Real est largement au-dessus. Sans doute que le Real va gagner. Après, c'est pas face à Tottenham que vous testez, vous dites, vous êtes le meilleur champion.
Mais Tottenham est un solide 3e et s'installe vraiment dans le top 3, top 4.
3e. Après, les deux Manchester semblent très, très au-dessus.
Au-dessus, largement.
Je trouve dur avec Arsenal.
Justement, on va en dire deux mots, mais on va d'abord parler d'un autre club. On devrait mettre plus souvent de la musique comme ça. On va y aller, on va vous laisser avec cette musique, c'est vachement entraînant. Non. Pourquoi Elton John? Parce que moi, dans mon idée, alors je sais pas si c'est vrai encore, mais Watford, c'est le club d'Elton. Et c'est tout.
Mais il est président d'honneur de Watford encore. Évidemment.
Donc, comme quoi, mon temps est pas si lointain.
Non, il y a une tribune à son nom, on le rappelle, le Sir Elton John Stan, qui effectivement est à son nom.
Vous savez que dans des tas d'endroits en Afrique, il y a des tribunes à Hervé Penaud aussi.
C'est vrai. Il y a pas besoin de chanter. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui ont fait ça et qui ont pensé à moi. Merci beaucoup.
Alors pourquoi on parle de Watford et on écoute Elton John, c'était bien sympa, hein. Merci Guillaume Ploquin. Parce que Watford a battu Arsenal et que Watford est quatrième derrière Tottenham, et donc devant Chelsea, qui s'est raté ce week-end, devant Arsenal, parce que Watford a inversé la tendance, il y avait 1-0 à la mi-temps pour les Gunners, puis il y a 2-1 à l'arrivée pour Watford. Quelques mots sur ce club?
C'est vrai que Watford impressionne depuis le début de la saison avec son nouvel entraîneur, Marco Silva, l'ancien de Hull City. Il avait quasiment réussi à maintenir le club la saison dernière, il n'a pas réussi à le faire. Il a pu rebondir à Watford et c'est lui qui a insufflé une nouvelle manière de jouer. 15 points en autant de rencontres, c'est du jamais vu dans l'histoire de Watford. Watford a réussi à le faire avec notamment des Français, Abdoulaye Doucouré qui est excellent, j'insiste, au milieu de terrain. Etienne Capot également qui rentre régulièrement dans ce milieu de terrain.
Qui a perdu sa place par rapport à la saison passée déjà. Ouais.
C'est ça, mais là qui revient un peu plus déjà dans ce système de jeu. Et puis vous avez d'autres joueurs qui reviennent petit à petit. Et Troy Deeney qui a marqué. Alors lui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué.
C'est énorme.
Mais c'est vrai que lui qui marque, qui est un capitaine emblématique de cette formation, il marque alors qu'il ne l'avait plus fait depuis 13 rencontres. Et d'ailleurs, la manière dont il a critiqué vigoureusement cette équipe d'Arsenal à l'issue du match, en parlant du manque de coronesse, c'est son terme, de coronesse de cette équipe d'Arsenal.
Vous avez dit que la dame écoutait, vous allez la choquer.
C'est vrai qu'Arsenal en a manqué, son métier dans cette rencontre, comme d'ailleurs depuis le début de la saison.
Un petit mot sur Arsenal, sur Watford. Watford, c'est plaisant. On a l'impression quand même dans ce championnat anglais. Il faut remarquer en France aussi, on a eu ça, mais une petite équipe qui vient comme ça, une petite surprise.
Après,
qui
est-ce que ça va durer?
Non, oui, tout on en chose, est au championnat.
Alors, ça m'étonnerait que ça fasse le coup de Leicester.
L'avantage, c'est que cette équipe de Watford, dès le départ, elle se dit bon, ben, on va essayer de s'accrocher, on fait ce qu'on peut. Elle marque souvent dans les derniers instants, elle fait la différence. À Swansea, elle a une chance avec un contre.
C'est bon, Richarlison qui marque.
Exactement, et ça se passe bien. Maintenant, Arsenal, je sais pas si on doit parler d'Arsenal, mais c'est plus possible, quoi. Il faut mettre quelque chose en place, quoi. Faut arrêter ce turnover ridicule entre Lacazette et Giroud, parce que l'autre, dès qu'il lui dit à la 60e, tu sors, et l'autre, il attend, je vais rentrer quand? Il y a pas. Ozil, bon, il rentre, il sait pas s'il avance, il a une occasion, oui, il peut faire la différence. Non, mais c'est un intermittent, lui, c'est ça.
Toujours pas la moindre passe décisive pour Ozil depuis le début de la saison.
Mais même, de toute façon, regarde, il a encore perdu sa place, mais il rentre, il a l'occasion pour faire la différence. Il a un ballon aussi à bien négocier. Et cette équipe-là, elle manque de caractère, de coronesse, mais c'est pas des coronesses qu'il leur
deux
faut.
Deux fois, trois fois.
Ouais, non, mais attendez, là, c'est plus possible. Ah, ils sont sages.
C'est les
tout se passe bien.
La dame, si tu écoutes, je n'y suis pour rien.
Bon, enfin voilà.
Un mot très rapide de Chelsea qui offre ses trois premiers points à Crystal Palace. Parce que Chelsea, c'est d'abord une œuvre caritative.
C'est d'abord une œuvre caritative.
Oui, enfin, si vous me permettez, c'est Crystal Palace qui prend les trois points grâce notamment à un très grand Wilfried Zaha.
Crystal Palace, 7 matchs, 7 défaites jusqu'ici.
Et sans marquer le moindre but d'ailleurs pour cette équipe de Palace. Et là, ils en marquent deux, notamment Wilfried Zaha, l'ivoirien, qui était phénoménal et était de retour après deux mois de blessure.
Attention, parce que ça peut être l'arme décisive du match Maroc-Côte d'Ivoire. Il va revenir, il avait dit j'espère que je vais jouer
Côte d'Ivoire Maroc, hein,
Côte d'Ivoire Maroc, absolument, excusez-moi.
Au stade Oufouet Boigny le 11 novembre, on devrait y être.
Ah bon, moi j'y serai. Ça, je peux vous le dire.
Moi sans doute aussi.
Chelsea sans Kanté. Et vous savez bien qu'il y a une vie avec ou sans lui. On l'a vu en équipe de France.
Il était blessé.
Morata n'est pas là. Oui. Batshuayi, qu'on le veuille ou non, c'est un super sub. Ça restera pour moi un super sub. Il n'arrive pas à faire la différence quand le mec, il est à 100% en face de lui. Par contre, dernier quart de minute, il arrive toujours à faire la différence. Et en plus, il perd Moses aussi rapidement. Ça devient compliqué pour Chelsea. C'est dommage.
Mais on a senti que c'était mauvaise mayonnaise ce début de saison avec Chelsea, je trouve.
Ben on verra, on vérifiera ça parce qu'il est grand temps de passer au championnat, messieurs.
Le plus grand du monde.
La Ligue.
Voilà.
Et pourtant, messieurs, non, nous ne rentrerons pas dans ce débat qui surgit à chaque fois qu'il marque sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, Nabil Fekir en l'équipe de France, que fait Didier Deschamps? Et puis quand il se rate face au Luxembourg, oh mais Fekir, il n'a pas sa place. On n'en dira pas un mot, parce que nous, on veut parler de Monaco. Parce que Monaco joue demain un match très important en Ligue des Champions. Monaco accueille le Beşiktaş, avec les Monégasques n'ont pris qu'un point sur six depuis le début. Il faut donc battre le leader actuel du groupe. Monaco qui perd 3-2, je disais dans les titres, un match qu'il aurait gagné la saison dernière. Vous êtes d'accord, Hervé Penaud, avec ça?
Non.
On rappelle le but de Fekir à la dernière seconde. Vous n'êtes pas d'accord? Merci de sortir.
Non, pas spécialement, parce que c'est un match que, effectivement, ils auraient pu au moins racheter les deux points, mais Lyon a raté une occasion nette, a tapé deux ou trois fois les poteaux. À un moment, si vous voulez, c'est aussi Lyon qui est venu arracher cette victoire. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut mettre en exergue. Mais du côté des Monégasques, ce qui peut être intéressant pour eux, c'est d'avoir prouvé déjà qu'ils avaient du caractère pour revenir. Perdre un match à la dernière minute sur un coup franc, ça peut arriver. Le problème pour eux, c'est qu'il y avait eu le match nul contre Montpellier.
C'est en cela qu'on fait la comparaison avec l'année dernière, c'est qu'ils étaient plus en réussite, on va dire, sur ce type de match.
Mais ça reste quand même un début de saison de très haut niveau pour Monaco. Mais si on regarde le fond des matchs, de toute façon, c'est pas le Monaco de l'année dernière. Ils ont eu beaucoup de difficultés sur pas mal de matchs. Ils ont gagné des fois à l'arrache. Et ça, faut pas l'oublier. Simplement, ils avaient la réussite dont vous parlez, cette fameuse réussite de l'année dernière, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Monaco de demain n'aura rien à voir avec celui de Lyon. Avec le retour de Fabinho, avec le retour de Falcao, etc., voilà, etc. Sidibé. Donc c'est sympa.
Un mot, Marc, avant d'aller voir Salim.
Oui, mais outre le retour de cet équipement légasque, elle peut faire aussi la différence puisqu'elle peut tuer le match aussi au dernier. Il y a deux occasions en fin de match aussi. On dit rien. C'est vrai que si Falcao n'est pas là, il faut pas oublier qu'un Bernardo Silva n'est plus là, un Mendy n'est plus là, des joueurs cadres. Ouais, non, mais ça, encore une fois, ils ont pas compensé. Et tu compenses pas, donc ça fait un bon Monaco, mais c'est pas la saison passée.
Ça fait un Monaco, c'est juste. Ça fait un Monaco
de très haut niveau.
Mais
c'est la logique.
Et c'est incompensable.
Je suis d'accord. C'est un bon début de saison de Monaco. Maintenant, sans ces joueurs cadres, sans ces patrons, c'est plus Monaco. C'est comme si au PSG on enlève les cadres. C'est plus compliqué.
Enfin, c'est plus le Monaco champion.
Non, mais quand même, je prolonge le propos de Marc quand il a évoqué Falcao. Il était absent pour cette rencontre, il sera de retour en Ligue des Champions. Ça se remplace pas, j'ai envie de dire. Même si vous avez un Keita Balde qui est excellent et d'autres joueurs de ce style, c'est pas Falcao qui a fait un début de saison invraisemblable, a marqué tellement de buts pour la SM. Dès qu'il est pas là, on constate qu'il y a un souci au poste de numéro 9. C'est ça aujourd'hui, en fait, le gros souci de la SM. Vous avez Falcao. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une Falcao dépendance? Quasiment, parce que au poste de numéro 9, vous n'avez que lui. C'est aujourd'hui ça le gros souci de l'ASM.
Oui et non. Parce qu'il manquait aussi d'autres joueurs. Jovetic, c'est quand même un joueur qui peut être important.
Mais il a pas pris la place. Il n'y arrivera pas. Au niveau de Falcao, il n'y a personne qui peut toucher au niveau de Falcao.
Mais quand vous aurez Balde Keita qui va revenir à un bon niveau physique, parce que le problème, c'est qu'il n'a jamais joué. C'était sa première titularisation. Quand vous avez Adama Traoré juste derrière, qui va rejouer aussi, qui aura besoin d'un. Rony Lopez a fait un très bon match. Il y a quand même du monde. Adama Diakabi, qui a besoin aussi de se mettre à un niveau. C'est-à-dire, il y a du monde. Quand même, à Monaco, le problème, c'est que vous ne remplacez pas Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy, comme ça.
Ouais, Bakayoko aussi, c'est vrai. Excuse-moi, Bakayoko, en plus, j'ai oublié. Mais pourquoi ils font pas jouer Germain? Ah ben non, c'est vrai, ils étaient à Marseille.
Il joue pas à Marseille.
Ah ben c'est vrai, c'est bête.
Mais on va en parler de Marseille. Mais d'abord, on va se dire que Monaco est donc à 6 points de Paris. Est-ce que cette défaite est inquiétante avant de recevoir le Beşiktaş Istanbul demain à Louis II? On écoute Rony Lopez, le milieu portugais, qui nous dit en gros qu'il faut surtout passer à autre chose.
C'est toujours difficile, mais maintenant il faut s'améliorer. Il y a des choses qu'on peut faire beaucoup mieux. Maintenant, il faut tourner la page, que la Ligue des Champions arrive vite. Il faut s'améliorer, on ne peut pas prendre des buts comme ça. Mais j'ai confiance en notre équipe et je pense qu'on va s'améliorer, on va arriver à faire de belles choses.
Feront-ils de belles choses demain? Le Beşiktaş, c'est pas simple. Quand on est en Turquie, on verra ce que ça donne à l'extérieur, mais ils ont le vent en poupe, les Turcs.
Ben surtout Beşiktaş, oui, en début de saison, rien à dire en Ligue des Champions. Donc on va voir. Là, c'est le vrai gros test pour Monaco, parce que là, il n'y a pas de doublure. Vous n'êtes pas comme à Lyon, où là, effectivement, vous reveniez d'un séjour international qui a fait qu'à un moment, vous avez dû vous priver de joueurs importants. Fabinho, quand vous n'avez pas Fabinho, ça change beaucoup de choses au milieu de terrain. Jardim me disait toujours, je mets Fabinho, après je fais l'équipe. Donc là, il n'était pas là. Aujourd'hui, test absolu pour l'équipe. S'ils veulent aller plus loin en Ligue des Champions, ils ont besoin de faire un résultat à Beşiktaş. Et même s'ils veulent se relancer...
Face à Beşiktaş, ce sera à Monaco.
Oui, à Monaco face à Beşiktaş. Et s'ils veulent se relancer, de la même manière, en championnat, il faut qu'ils fassent un résultat contre Beşiktaş.
Ça paraît difficile quand même.
Ah, moi, derrière les Monégasques...
Moi, j'y crois.
Ah, mais pourquoi pas. Je peux y aller? Oui. Derrière les Monégasques, à deux points des hommes du Rocher, trois équipes, Saint-Étienne, Nantes et Marseille, avec ce 3-3 presque miraculeux hier à Strasbourg, Mitroglou qui égalise à la toute dernière minute. On est à 8 jours de la venue du Paris Saint-Germain au Vélodrome.
6 maintenant.
Oui, maintenant 6. Enfin bon, jouez pas sur les mots maintenant, ça suffit. 15 buts encaissés quand même par l'OM depuis le début de saison.
Coup de pied arrêté encore une fois.
Qu'est-ce qu'on dit de ce match d'hier?
Qu'ils ont eu chaud, qu'ils ont eu très très chaud.
Ils restaient sur une série de 3 victoires de rang, 3,
ouais,
4
3 victoires de rang, mais après ils n'arrivent pas à faire la différence. Défensivement, c'est très moyen.
Ils pouvaient se retrouver seuls sur le podium. Ils pouvaient même revenir à la hauteur de Monaco, qui leur a mis 6-1.
C'est pas possible. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Ils ont été bougés par une jeune équipe qui, eux, pareil, ont manqué d'expérience, parce qu'autrement, je pense que Marseille ne revient absolument pas. Dans les moments forts où ils doivent faire la différence, ils n'arrivent pas à le faire. Bon, c'est une équipe qui est en totale reconstruction dans tous les sens du terme, quoi. Parce que derrière, à part un petit peu à ma vie, mais c'est très difficile, quoi. C'est très, très difficile.
Ce qui est terrible, c'est
Payet qui joue. Et autour de ça, il faut la même expliquer Sarr. qui est adorable comme garçon. On lui fait faire la préparation, le début de saison latéral, et puis d'un coup sur ce match-là, bah tu vas reprendre ton poste d'attaquant. On est en octobre. Enfin, il y a beaucoup de choses, on comprend pas.
C'est pour une blessure, là. C'était lié à une blessure.
Ouais, non, mais enfin, il y a pas mal de choses, on comprend pas. Donc, c'est très bizarre.
Mais ce qui est bizarre dans cette équipe marseillaise, c'est que pour l'instant, il a absolument pas trouvé l'équilibre de son équipe. On se rend bien compte que le milieu de terrain prend l'eau. Parce que les défenseurs jouent dans des conditions parfois apocalyptiques. Hein. Vous jouez du 2 contre 1, du 3 contre 1, c'est quasiment impossible. Un Rami, en plus, qui était très très mauvais.
C'est un attaque-défense, on a insisté.
Et qui est très très mauvais. Strasbourg rate une occasion de 4-2.
À 3-2,
ouais. Absolument incroyable. Baoken qui tape le poteau. Alors
et, le 1m50.
Et le petit Terrier. Allez, je dirais, c'est un peu plus difficile d'être pour Terrier, il est un peu plus loin. L'autre, il a 1m50, il suffit de mettre intérieur. Enfin bon. Il rate complètement. Et après, ils ont même failli quasiment l'emporter. Parce qu'ils auraient peut-être pu, sur une dernière action, l'emporter. Donc, ce qui peut être intéressant pour les Marseillais, c'est de se dire que c'est une équipe qui lâche pas. Qu'ils ont trouvé en Mitroglou un attaquant qui peut être vraiment intéressant au niveau Ligue 1. Parce que pour son premier match, il a montré qu'il était capable de marquer des buts et jouer avec les autres.
Et ça, il a créé des occasions, il a créé des brèches. Il a pas marqué, mais il a créé des brèches.
Il a marqué.
Oui, non, il a marqué à la fin de match, mais en début de rencontre, il s'est créé des occasions, il a pas marqué sur la première période.
Mais, alors là, c'est le positif Mitroglou, mais encore une fois, défensivement, quand vous concédez toutes les 3-4 minutes une frappe, face à Strasbourg, c'est pas face au PSG, c'est face à Strasbourg qui reste une équipe de bas de tableau. C'est ça qui est très inquiétant quand même, à travers le milieu de terrain de Marseille qui prend l'eau effectivement, et puis les défenseurs aussi qui laissent faire.
Non mais là, il y a un moment, il faut aussi que les joueurs offensifs marseillais, parce que Payet, je veux bien, très bien, mais à un moment, vous avez le droit de travailler pour les autres. Thauvin, il a le droit de travailler pour les autres.
Bien sûr.
Nji, il a le droit de travailler pour les autres, puisqu'ils ne font rien. Payet, il fait un grand match, balle au pied, mais à un moment, vous avez aussi besoin de jouer sans la balle. Alors là, vous ne ferez pas jouer avec Guardiola, je peux vous l'annoncer tout de suite.
Hein. Tu sais très bien qu'il ne travaillera pas, malheureusement. Il faut le laisser jouer comme ça, comme il veut, et il faut deux défensifs qui travaillent énormément. Et là, il t'a manqué
un problème.
Et Anguissa a été très bon quand même.
Il a fait ce qu'il fallait tout seul.
C'est très compliqué.
Mais bref, à 6 jours du PSG, c'est très inquiétant de voir cet OM ainsi. Ok, vous marquez des buts. Alors, encore une fois, vous avez un peu de réussite, vous avez mis trop glou. Ça, c'est la seule bonne satisfaction, peut-être. Mais sinon, prendre autant de buts et prendre autant d'opportunités face à Strasbourg, c'est méga inquiétant.
Et bien, comme ça, la dame aura du spectacle, car je vous annonce qu'elle sera à Marseille le week-end prochain.
Elle sera au Vélodrome
avec Antoine Grenier, tout un orchestre. Guillaume Ploquin sera là aussi parce que c'est le patron. On vous rappelle. Et Marc Libra sera là aussi. On me dit. Guillaume Ploquin me dit que Marc Libra est invité également. Mais il jouera pas.
C'est Guillaume.
Il vient pour regarder.
C'est Guillaume le patron ou c'est El Jefe? On sait plus.
Non, c'est Guillaume Ploquin sur Radio Foot. Attention, c'est lui qui pousse les boutons. Entre Saint-Etienne 3e et Caen 8e, on a quand même 6 équipes en 2 points. C'est sans doute le principal suspense de ce championnat. On va avoir un Paris très vite champion, peut-être dès Noël. Un Monaco très vite assuré de faire la Ligue des champions, peut-être dès Noël.
Non, je plaisante. La deuxième place va être ultra intéressante. Attention, c'est qu'on est en train de s'acheminer vers un championnat où chacun va perdre un peu des points et ça va être très spectaculaire.
C'est le mot de la fin pour la Ligue 1. On va passer à l'Afrique. Juste une dernière info, tiens, pour la Ligue 1, je l'avais noté, elle vient de tomber juste avant l'émission. À Rennes, on a débarqué président et entraîneur, c'est plus simple. Comme ça, allez, René Ruello, dehors, et Christian Gourcuff, dehors aussi. C'était juste avant l'émission, c'était attendu, je rappelle juste, Rennes qui a perdu donc à Guingamp, samedi. Rennes est 15e avec 6 points, une seule victoire depuis le début du championnat. L'Afrique, à la surprise générale, le coup de tonnerre du week-end, quoi, le CHAN 2018 au Maroc, incroyable, vraiment le suspense. Du 12 janvier au 4 février, mesdames, messieurs, on écoute le président de la CAF, Ahmad, avec Bright Abiola. On a diffusé cette interview hier dans Mondial Sport. On écoute un extrait.
Tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, sur le plan sportif, au niveau des infrastructures, qui ne sont pas prêts à 3 mois de la compétition. La situation politique, d'une manière générale, qui ne nous a pas permis de rester et d'organiser la compétition au Kenya. Et on a mis en priorité un pays qui est prêt pour l'organisation sans un investissement au niveau des infrastructures, que ce soit sportif, hôtelier. Donc c'est pour cette raison que nous avons opté pour le Maroc.
Le président Ahmad, hein, bien sûr, on a tendance à l'appeler parfois Ahmad, parce que nous on aime bien donner des prénoms, c'est comme ça. Mais c'est bien Ahmad, avec Bright Abiola. L'Éthiopie, hein, finalement, il nous a expliqué, n'était pas candidate parce qu'il n'y avait pas de volonté gouvernementale de l'être. Ils étaient seuls, les Marocains, face à la Guinée équatoriale. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les Marocains, ils ont fait leur affaire tout seuls. C'est presque eux qui ont annoncé, qui ont officialisé la chose avant même la CAF. C'est eux les tauliers,
non, non, je crois quand même c'était la CAF qui l'a annoncé en premier. Mais il est tout à fait logique que ça aille au Maroc. parce que là, on est à trois mois de la compétition. Vous avez un pays qui est prêt, il n'y a aucun souci. Et le président Hamad le dit bien. C'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, c'est-à-dire vous ne pouvez pas remplacer un pays par un autre pays pour le Chan, comme ça, en claquant des doigts. La Guinée équatoriale a déjà eu deux fois les cadres récemment. Moi, ça me paraissait assez logique. Le Maroc qui avait perdu, rappelons-nous, pour l'histoire des Bollards, enfin perdu, qui s'était désisté.
Qui s'était sabordé tout seul.
Qui voulait l'organiser en juin, finalement, on ne l'avait pas accepté. Donc, aujourd'hui, il me
semble. C'est marrant d'ailleurs de penser que finalement, depuis, on a décidé de l'organiser en juin.
Oui, absolument. Et peut-être
c'était logique. Visionnaire.
Et donc, c'est assez logique, si vous voulez, que le Maroc récupère cette compétition. Et je pense qu'il y aura au plus un engouement là-bas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs marocains au pays qui sont à très bon niveau. Les clubs commencent à remonter la pente au niveau africain. Donc, je pense qu'il pourra y avoir vraiment une vraie passion autour de cette compétition. Donc, de toute façon, c'est assez logique que ça aille au Maroc.
Mais on a quand même un peu l'impression que les Marocains ont une certaine mainmise.
On sait que les rapports entre le président Hamad et le Maroc sont très très forts. C'est vrai que le Maroc est aujourd'hui le poids lourd du football africain. Vous avez quelques pays comme ça majeurs et aujourd'hui le Maroc est devenu un poids lourd du football africain. Ça y a aucun doute.
Et ils sont candidats à tout, à la Coupe du Monde 2026, aux Jeux Olympiques d'hiver, il paraît 2028, et puis je ne sais plus à quoi d'autre. Mais enfin bref, ils sont présents, les Marocains.
Et tout le monde, et évidemment, vient en filigrane l'interrogation sur la CAN 2019. Mais depuis tous les bruits de couloir, on voit que les Camerounais se sont réveillés, vont faire le maximum pour essayer d'organiser cette compétition. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils seront capables de faire sur le terrain, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent que si le Cameroun n'est pas capable d'organiser la CAN 2019, c'est le Maroc qui le récupérera. Mais c'est aux Camerounais maintenant de faire les efforts nécessaires. Ils en sont capables, évidemment.
Rabat, Casa, Agadir, Marrakech. Il y a Tanger. Tanger, Casa, Marrakech, Agadir pour les stades. On rappelle que l'Égypte a été qualifiée parce qu'il fallait on change de pays d'autre. Le Kenya n'y était plus. Enfin bref, voilà.
Ça tombe bien aussi. Un autre poids lourd du football africain.
Eh ben merci messieurs. Je ne vous demande pas, Salim, Marc Libra, votre avis sur le Chan au Maroc, parce qu'a priori vous regarderez même pas ça à la télé, vous, peut-être que je vous connais.
Merci. Ah non, merci. Ça va être top. Moi, je suis allé sur deux Chan, Rwanda, Afrique du Sud. Je peux vous dire, je me suis régalé.
Mais bien sûr, moi j'étais au premier Chan, mon ami. Ah, oui. À l'époque, il n'y avait que 8 équipes. C'était en Côte d'Ivoire.
Et pourtant, je croyais pas trop à cette compétition. Et ben finalement, je trouve que ça a pris.
Bravo. Eh ben écoutez, ce qui a pris, on espère, c'est cette émission-là. Elle reprendra bien sûr demain avec le retour de la Dame, la Ligue des Champions, des tas de choses. Merci.
On parle de Coronès
à Davine Fitzel, ça je vous laisse voir ça avec elle.